Facere, Père Philippe, 17 décembre 1983, Saint-Jeudard.
Nous allons continuer d'essayer de saisir ce que représente l'habitus d'art et voir la diversité de l'habitus d'art. Alors, je dis bien. L'habitus exis en grec, on comprend mieux, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier. L'exis. Alors, comment traduire habitus ? Disons détermination. Détermination stable qui permet de réaliser, d'opérer d'une façon plus parfaite. L'habitus d'art est parallèle, c'est ça qu'il faut bien saisir, à ce que nous appelons la vertu. C'est parallèle, c'est en même temps, pas opposé, mais un peu rival. Ordinairement, quelqu'un qui a des vertus très développées, il n'y a plus beaucoup de place pour l'art. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des vertus très développées. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Je suis une mère de famille qui a des vertus très développées. Hein, la femme forte de l'Ancien Testament. Alors on voit très bien chercher dans la femme forte de l'Ancien Testament ce que représente l'habitus d'art. C'est pas commode, il faut bien le reconnaître. Et d'autre part, quand vous avez une artiste qui est dans un foyer, qui est mariée, ben ça pose des tas de problèmes. Il y a un peu une rivalité entre les deux. Parce que ça développe, de fait, des dispositions naturelles très différentes. Dans la vie religieuse, prenez pour des exemples concrets, dans la vie religieuse. Dans la vie religieuse, normalement, la vie religieuse et le point de vue du noviciat doit développer les vertus. Ça ne développe pas tellement le point de vue de l'art. Ça, c'est vrai. Ça ne développe pas tellement le point de vue de l'art. Alors, et c'est dommage. Il n'y a pas d'opposition, hein. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. L'idéal, c'est d'être un homme vertueux et un grand artiste. C'est rare, des grands vertueux, des grands artistes qui sont des hommes vertueux. Ça existe, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est rare. Un Frangelico, je prends un exemple, il était quand même un grand artiste. Il était un homme vertueux, puisqu'on va le béatifier. Pour les artistes, c'est le Saint-Père, pour la culture, hein. C'est le saint de la culture, de l'art. Alors on voit très bien comment Frangelico, il y en a aussi des quantités d'autres, on peut en prendre des quantités d'autres, mais c'est plutôt rare, il y a de fait, hein. C'est ça qu'il faut saisir ici, en philosophie de l'art. Il faut saisir comment l'habitus d'art se développe à partir de notre activité artistique. Comme les vertus se développent à partir de nos activités morales. Nos activités artistiques donnent naissance à ce qu'on appelle un habitus, une disposition stable. Une disposition stable qui nous permet d'aller plus loin. L'habitus d'art s'enracine dans l'intelligence pratique liée à l'imaginaire pour toute l'inspiration. L'imaginaire est lié à l'intellect pratique chez l'artiste. Liée à la sensibilité et faisant un lien entre ces trois aspects pour permettre de fait à l'activité artistique d'être davantage elle-même. Ce qui pousse, ce qu'on dirait un homme de métier, vous voyez. c'est pas tout à fait ça, parce que l'homme de métier, ça peut être de la virtuosité. Mais un artiste, quand on a connu un artiste en herbe, le gars, il est doué. Hein, ce qu'on dit, il est doué. Il prend son chemin. Mais évidemment, c'est le début. Alors, on accepte. Et puis, petit à petit, on voit que ça se précise, ça se détermine, ça se dépouille, ça se décante d'une quantité de choses secondaires. Puis, on voit un axe qui se dessine, avec une très grande variété, du reste. Hein. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a la marque de l'artiste. Alors qu'au début, pas tellement. On voit quelque chose qui se détermine. Et c'est toujours très intéressant de voir ça. La naissance de la vertu, ça se voit aussi. La vertu, elle naît à partir de nos activités morales. Ce sont des habitus, très difficiles à traduire, le mot habitus, hein, alors dit dispositions stables, hein, des dispositions stables, des dispositions acquises, qui viennent ennoblir notre intelligence pratique, les deux. Les deux sont reçus dans l'intelligence pratique. C'est en ce sens qu'il y a des rivalités quelquefois très fortes entre la prudence et l'art. Conduire une voiture, c'est de l'ordre artistique. Non, il y a des gens qui conduisent vraiment comme des artistes. Et c'est-à-dire avec beaucoup d'efficacité, d'une façon merveilleuse, vraiment comme des artistes. Il y a des gens qui conduisent comme des philistins, absolument. Alors, on a tout à fait l'impression que ça ne va pas du tout. Puis il y a des gens qui conduisent prudemment. On sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Ils sont d'une prudence, il ne faut surtout pas être derrière, parce que c'est dangereux. Ils sont d'une prudence excessive quand c'est la prudence. Parce qu'on a peur. On a peur de l'autre. Je comprends, c'est parce que c'est l'autre qui est dangereux. L'enfer, c'est l'autre. Hein. Dans tous les accidents, c'est toujours l'autre qui a tort. Hein. C'est forcé. Et plus on est prudent, plus c'est l'autre qui a tort. L'artiste, il reconnaît. Hein. J'ai loupé mon coup, ça fait. Mais je conduis un artiste, vous savez bien. Un artiste, c'est quelque chose de particulier. Vous voyez, là, vous sentez tout de suite, on sent tout de suite les tempéraments différents. Des gens qui sont plus orientés vers l'activité morale, et puis d'autres qui sont plus dans l'activité artistique. L'activité artistique présuppose tout un milieu. Pas toujours, parce que quelquefois ça sort comme ça, on ne sait pas trop comment tout ça vient. Il y a un arrière-grand-père qui était un artiste, qui était un homme dont on ne parlait pas très beaucoup parce que de fait il était un artiste assez particulier, mais c'était quand même un artiste. Il avait ça dans le sang. Alors il y a les dispositions, parce que l'activité artistique, tout le monde ne peut pas réaliser l'activité artistique. Tout le monde peut apprendre une leçon, être fort en thème. Mais tout le monde ne peut pas être un artiste. Quelque chose de particulier. Il y a des dispositions. Ça, on ne peut pas nier. Il y a des dispositions qui c'est pour ça qu'il y a certains qui ont toujours, d'une façon lamentable. Alors, ils se rattraperont du côté de la prudence. Mais c'est ordinairement, les gens qui disent « je conduis prudemment », c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'art de la conduite. Ils se rattrapent du côté de la prudence. Vous voyez, c'est très très net, ça. On comprend très bien, il faut quand même avoir une certaine noblesse dans la conduite. Alors c'est la noblesse de la prudence. Tandis que celui qui est disposé, qui a des dispositions vis-à-vis de artistique au point de vue conduite, lui, il pousse du côté artistique. C'est normal. Hein. Et chacun d'entre nous, avons des dispositions comme ça. Et alors, en plus, vous voyez, ça c'est l'intellect pratique. En plus, il y aura le développement de l'intelligence comme telle. Je le mets à la cave, mais je vais mettre au-dessus normalement. Tu vois, l'intelligence comme telle. Mais l'intelligence pratique, c'est la prudence et l'art. Et c'est là où se font tous les champs de bataille. On le verra, ça. C'est très intéressant de voir le champ de bataille, la rivalité qui existe entre la prudence et l'art. Ça, on ne peut pas nier. Vous voyez, une véritable culture représente un équilibre entre les deux, une harmonie entre les deux. Parce qu'une culture qui n'est plus qu'une culture artistique, risque alors, au bout d'un certain temps, de tuer l'homme. Et alors, si ça tue l'homme, ça tue l'art. Ça, c'est évident. Parce que le sujet de l'art, c'est l'homme. Alors, cette activité artistique donne naissance à cette habitude, à cette disposition stable, qui est une disposition acquise, qui vient permettre à mon intelligence pratique d'être lié à l'imagination. Mais je ne dirais jamais ça pour la prudence. L'artiste est un être qui a de l'imagination. Je ne dis pas que l'homme prudent n'en a pas. L'homme très prudent, au grand sens, a de l'imagination. Mais le petit prudent n'en a pas. Vous savez, il y a des vertus à deux dimensions, toujours. Il y a toujours deux dimensions dans les vertus. Il y a les grandes vertus, alors on ne s'en aperçoit même plus. Et puis il y a les petites vertus, alors on s'en aperçoit. Et la vertu de prudence qui vient dans la qualité pratique n'est pas premièrement liée à l'imaginaire. Tandis que l'habitus d'art, c'est toujours l'intelligence pratique liée à l'imaginaire, liée à l'imagination et liée aux sensations. Et ça fait le lien entre les trois. Pour permettre à l'imagination de permettre aux sensations d'avoir un exercice plus parfait. L'artiste, il exalte les qualités. L'artiste, c'est l'homme de la qualité. Alors, l'homme prudent, c'est l'homme des relations amicales. Un véritable homme prudent, au grand sens. Parce que l'homme prudent, aujourd'hui, vous savez bien, le Normand, celui qui ne s'avance pas beaucoup. C'est ça la prudence habituellement. Mais ça, ce n'est pas la vraie prudence. La vraie prudence, l'homme vraiment prudent, c'est l'homme qui sait s'engager au bon moment. Ça, nous verrons au cours d'éthique. Ici, je regarde donc ce lien qui est l'intellect pratique à l'intérieur de l'imaginaire et la sensation. Ce sont les trois. L'habitus d'art vient perfectionner l'intellect pratique. Un artiste est toujours intelligent, en tant qu'artiste. Non, c'est impossible autrement. L'art naît de l'intelligence. Il ne faut jamais l'oublier. Je sais très bien que certains diront, oh, pas du tout, c'est instinctif. Mais non, pas du tout. Alors, à ce moment-là, on essaiera de penser le moins possible pour être un artiste. On sait à quoi ça aboutit. Non, l'artiste, c'est intelligent. Ça ne veut pas dire du tout, vous voyez, que l'artiste raisonne logiquement. Non. Il n'y a pas de logique en art. Il n'y a pas de logique en art. C'est pour ça que c'est toujours assez difficile d'entrer dedans pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Parce qu'il cherche de la logique. Alors, c'est pas la logique, c'est un rythme, c'est une harmonie. C'est tout à fait différent. C'est de l'ordre de quelque chose de particulier qui fait qu'il y a comme une mise en lumière des qualités. Et je crois que c'est ça avant tout, c'est la mise en lumière des qualités. Et c'est pour ça que les qualités sensibles, c'est pour ça que les sensations sont toujours présentes, ces qualités sensibles. L'imagination permet aux sensations d'avoir comme un écrin qui la met en pleine lumière. Quand c'est une imagination artistique, c'est là la différence entre l'imagination artistique et l'imaginaire du malade. Un imaginaire excessif. On pourra dire, les artistes sont tous un peu fous. C'est pas du tout la même folie. Ils sont tous un peu fous parce que la folie est en imaginaire. Et la folie vous coupe complètement des sensations. Et vous coupe complètement de l'intelligence. La folie, c'est l'imaginaire qui se développe pour lui-même. Tandis qu'au contraire, l'imaginaire de l'artiste, c'est un imaginaire relié à l'intelligence pratique qui veut mettre en pleine lumière une qualité sensible. et l'harmonie de ces qualités anciennes. Et alors l'imaginaire devient comme l'écran. Il y a un fond. Très significatif, on trouve ça dans toute œuvre d'art. On voit toujours une mise en lumière. Il faut découvrir ça. La mise en lumière, c'est quelque chose qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. La qualité, c'est quelque chose d'indivisible. C'est pour ça que ça ne s'explique pas. Quand quelqu'un dit « Expliquez-moi un peu ce tableau », il n'y a rien de plus énervant pour un artiste que de poser cette question. Parce que ça prouve qu'on n'a rien compris. C'est vrai. Ça prouve qu'on n'a rien compris. On n'explique pas un tableau. Ça ne s'explique pas. Ça se saisit. Alors on peut dire bah, « je suis un béotien, je ne comprends rien. Je suis un béotien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je ne vois pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. » Très bien, ça. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ce n'est pas la peine. On donnera toutes les explications possibles, mais on ne comprendra rien. Parce que la qualité, c'est quelque chose d'indivisible. Toute qualité est dans l'indivisible. Donc, ça se saisit ou ça ne se saisit pas. Ça ne s'explique pas. Oui, c'est là la différence entre la logique qui explique, le philosophe explique, et le philosophe doit être au service de l'artiste pour montrer que l'artiste a un domaine qui est un domaine au-delà de tout raisonnement. Il y a des intuitions esthétiques. Et les intuitions esthétiques, ça ne s'explique pas. Et c'est très curieux de voir ça. C'est très intéressant à noter que celui qui n'est pas artiste demandera des explications. Celui qui est artiste dira, mais taisez-vous, regardez, quoi. Écoutez. Ne cherchez pas d'explication, mais très bien, essayez de saisir la qualité indivisible. C'est indivisible, donc ça ne s'analyse pas. Et l'imaginaire lié à l'intelligence pratique, c'est l'écran qui va permettre à la sensation d'être mise en pleine lumière, ou au rythme, ou à l'harmonie, parce que la sensation n'est jamais une sensation unique. Donc c'est toujours une harmonie, c'est toujours des sensations diverses qui sont là liées en harmonie et qui vont susciter quelque chose de particulier. Et une œuvre d'art n'est pas autre chose que cela. C'est un jeu d'harmonie. Un jeu d'harmonie qui nous aide dans l'ordre de la lumière, dans l'ordre de la couleur, dans l'ordre du son. Un jeu d'harmonie avec un rythme particulier. Il y a le rythme de chaque artiste. Alors c'est ça qu'il faut donc saisir. Que l'habitude d'art va permettre à l'intellect pratique lié à l'imaginaire d'avoir une inspiration particulière, nous avions vu. L'habitude d'art permet à l'inspiration d'être plus jaillissante, donc elle jaillit d'imaginaire. Et cette imagination qui jaillit d'imaginaire, on est dans l'ordre du possible, va se réaliser toujours à travers les sensations. C'est déjà l'inspiration et l'imaginaire sont liés aux sensations. Mais ça revient dans l'œuvre, l'œuvre elle-même. Il y a deux phases tout à fait différentes. Il y a la phase de l'inspiration où l'artiste porte en lui cela. Inspiré. Et puis la réalisation. Dans la réalisation, forcément, le possible doit pouvoir se préciser, les possibles de l'inspiration. Doit pouvoir se préciser, doit pouvoir prendre une tonalité particulière grâce aux diverses sensations, qui sont des sensations de qualité sensible, et dans lesquelles se réalise l'œuvre, à partir d'une matière. C'est toujours des matières, c'est évident. La matière qu'on transforme. Mais la matière qu'on transforme, au niveau des sensations, il y a une mise en lumière de ça. Bon, ceci, c'est pour vous rappeler ce qu'est l'habitus d'art. Maintenant, entrons dans ce problème que nous avions commencé de voir. Comment les habitus d'art, à la différence des vertus, c'est une question très importante. Les habitus d'art, à la différence des vertus, ne sont pas connexes. L'art est toujours un peu anarchique. Je ne dis pas les artistes, mais l'art est toujours un peu anarchique. Et par le fait même, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, les artistes sont toujours un peu anarchiques. Ils n'aiment pas l'aspect communautaire. Ça, c'est évident. N'est-ce pas, la paix communautaire. Le petit artiste qui est en nous, en chacun d'entre nous, n'aime pas. Alors s'il est grand, vous comprenez, il roule. Parce qu'il ne peut pas aimer ça, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, il est toujours seul. Il est seul. Alors, ils peuvent travailler ensemble, c'est sûr, il peut y avoir des amitiés. Mais en tant qu'artiste, il est seul. Et c'est pour ça que c'est toujours l'autre, c'est toujours l'enfer. C'est normal, c'est l'autre qui est gênant. Parce qu'il n'est pas inspiré comme nous. Il ne voit pas les choses de la même façon. Donc il est toujours gênant. L'artiste comme artiste, hein, et ça peut très bien se faire, que chez certains artistes, l'aspect communautaire peut être quelque chose d'impossible. En tant qu'artiste. En tant qu'homme, la vie commune est naturelle. En tant qu'artiste, la vie commune n'est pas naturelle. Il faut bien comprendre ça, c'est important. Alors si l'art prend possession de tout l'homme, à ce moment-là, évidemment, on dira, artiste, écoutez, choisissez votre lieu, le lieu où vous serez le mieux possible, parce que vous n'arriverez pas. C'est impossible. Vous serez agacé du matin jusqu'au soir. Impossible. Donc il vaut mieux, si il est artiste, et qu'en même temps l'homme est très développé du côté vertueux, il pourra, par la vertu, se dire, je comprends, c'est nécessaire. Pour la vertu. Pour la vertu, la vie commune est bonne. Oui, ça c'est vrai. Pour la vertu. Si vous aimez la vertu, vous trouvez que la vie commune, c'est merveilleux. Je vis avec des saints extraordinaires. Ils sont très exigeants, donc ils m'obligent d'être très exigeant. C'est très beau. Pour la vertu, la vie commune est nécessaire. Pour l'artiste, la vie commune est insupportable. Je crois qu'on doit aller jusque-là. Elle est insupportable parce qu'elle elle empêche l'artiste d'aller jusqu'au bout. Il y a un dilemme, il est très très fort. C'est la rivalité qui existe entre les deux, entre ce point de vue moral et le point de vue artistique. Je crois qu'il faut le voir, ça, pour nous-mêmes, hein. Il faut le voir, parce que ça apaise beaucoup de voir ça. Ça apaise énormément de voir qu'il y a en nous un petit artiste, plus ou moins développé, mais qui existe. Et alors, en tant qu'artiste, c'est normal. C'est pas étonnant. Et avant, dans le monde, on s'arrange, ça se voit beaucoup moins. Mais dans la vie religieuse, où il y a une vie commune avec un règlement objectif, hein, vous voyez, ça se sent beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus étonnant, beaucoup plus violent. Alors il faut comprendre que les vertus sont connexes. C'est pour ça qu'elles peuvent aller dans la vie commune. Alors que l'art est anarchique. Et c'est pour ça qu'il ne va pas avec la vie commune. Réunissez des anarchistes entre eux, vous verrez ce que ça fera au point de vue politique. Au bout d'un certain temps, au bout du combat, il ne restera plus que des queues. Il ne restera plus rien du tout, hein. Ils se mangeront mutuellement, c'est bien évident. Parce que de fait, il y a une rivalité. Il y a une rivalité farouche. Alors ça ne peut pas aller. C'est net, il faut le comprendre. Alors, là, ne pas connaître. Il faut donc saisir la diversité des habitudes. C'est un grand problème très intéressant. La diversité des habitudes. Alors là, il y a deux problèmes. Vous voyez, un problème historique. Comment l'art s'est développé. En Orient, en Occident. C'est intéressant, du reste, faire ces choses-là. Dans certains pays, il y a des pays dans lesquels l'art pictural est beaucoup plus développé que l'art musical. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. Il y a des pays où il y a des deux. Mais il y a des pays, il y a des génies différents, vous voyez. Et des génies qui forment le point de vue de la culture. Il y a le milieu dans lequel se développe l'artiste. Alors il y a des milieux favorables à la peinture. Il y a des milieux qui sont au contraire beaucoup plus favorables à la musique. Il y a des milieux qui sont favorables à la danse. Hein? C'est bien. Et il y a des milieux qui sont pas du tout favorables. Alors, il ne faudra pas mettre... Oui, quand vous mettez une danseuse au Carmel, comme musicienne... Oui, parce que j'ai connu le cas. Alors, c'est pas commode, quoi, n'est-ce pas. Parce qu'elle voudrait transformer le Carmel en un milieu où l'on danse, et c'est la prieure dira, mais attendez d'être prieur, on verra si on va peut-être faire danser tout le monde pour que le Carmel soit à votre niveau. Il y a des milieux comme ça, mais c'est ces exemples-là qui nous montrent bien qu'il y a des milieux caractéristiques pour tel ou tel. Et c'est en ce sens-là qu'il y a des cultures plus picturales, plus musicales, plus tragiques, et ainsi de suite. Alors, regardons le premier, c'est-à-dire lorsque l'imaginaire, l'inspiration, se lit et est particulièrement lié à l'œil, à la vision. Le point de vue de la peinture. La peinture, c'est l'art de la lumière. C'est l'art de la lumière. C'est dans ce sens-là que c'est propre de la peinture. On sent tout de suite ça chez des artistes. Alors il y a des gens, il y a des artistes qui auront l'art de l'obscurité. Hein. Parce que vous comprenez, il y a l'antithèse. Il y a les ténèbres. Alors, vous pouvez très bien voir l'art des ténèbres. Et puis vous avez l'art de la lumière. Mais ce sera toujours les deux. Et ce sera ça qui sera caractéristique de la vraie peinture, de la peinture dans ce cas-là de plus vrai, de plus profond. Ce n'est pas le sujet qui est premier. Ce n'est pas le sujet. Ça, c'est les artistes du dimanche. Alors si c'est pas. Il peigne le grand-père, vous comprenez, avec sa barbe, tous les poils sont montés. Et tout le monde le reconnaît. Vous voyez comme c'est beau, hein, le portrait. Ça, c'est pas de l'art. Vous voyez, la photographie a aidé beaucoup l'artiste. C'est très, comme, très curieux. La photographie a fait faire pour l'art de la peinture un pas énorme. Parce qu'on a montré la différence. Il y a de la photographie qui peut être artistique, c'est bien évident. Il y a des photographes qui sont des artistes et qui prennent magnifiquement certaines photos. Lumière et ténèbres. Il y a l'artiste, le photographe de la maison. Il faut me mettre tous les âges de l'enfant. Venez. Ça, c'est pas artistique du tout. C'est la figura qui domine. Hein. C'est la figure de l'enfant qui grossit et qui grandit. C'est ça qui intéresse. Alors ça, c'est autre chose. C'est des documents. C'est des documents pour les historiens. Parce que si ce petit deviendra un saint, il faut avoir ces documents. Tu vois. Et alors, on pourra éditer ça et on fera fortune. Alors, ça, c'est les documents. C'est pas du tout la même chose, les documents. C'est pas artistique. C'est de l'art historique. L'histoire peut être liée à l'art, mais l'histoire n'est pas immédiatement liée à l'art. L'histoire, c'est les documents. C'est ça qui est en premier lieu. La photographie est entre les deux. Il y a des photographes artistes, il y a des photographes documentalistes. Hein, c'est tout à fait différent. Et alors, ça fait des... Et parce que la photographie existe, l'art pictural, c'est pur du son. C'est très curieux. Il y a eu une espèce de purification qui s'est faite là. Purification dans le sens où il y a une précision de chercher davantage ce qui caractérise le point de vue de l'art pictural. Et ça ne veut pas dire que ceux qui étaient avant les photographes n'étaient pas de bons artistes, pas du tout. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Mais il y a une influence qui s'est faite. Ça, on ne peut pas nier. C'est assez net. Et c'est intéressant à voir parce que ça fait comprendre comment l'artiste inspiré, seul l'artiste inspiré, comprend ça. Parce que celui qui regarde ça de l'extérieur, il aimera mieux comprendre tout de suite. Alors quand la figura est parfaitement exprimée, il comprend. Quand il n'y a plus que la lumière, très difficile. Et on comprend qu'on fait la lumière. Mais prenez l'exemple, parce que ça c'est très, très typique, et puis vous l'avez vu. Prenez, exprimer le mystère de la résurrection. C'est très important, exprimer le mystère de la résurrection. C'est la lumière qui l'emporte. C'est la victoire de la lumière. Et c'est ça le mystère de la résurrection. C'est la victoire de la lumière. Au point de vue pictural, alors comprenez bien, pas au point de vue de la foi. Mais au point de vue pictural, c'est la victoire de la lumière qu'on représentera de façon diverse, mais au fond, c'est la victoire de la lumière, c'est pas la figura. puisque c'est la victoire de l'amour. Et l'amour comme tel, c'est quelque chose qui saisit l'intérieur. Alors ça m'a beaucoup intéressé, parce que récemment, quand on regarde le chemin de croix, vous avez vu la résurrection, comme je connais un peu l'origine, la veille, j'avais vu d'où il y a eu cette inspiration. C'était un paysage étonnant de la nature. Et c'est... Alors, on m'a dit, c'est là où j'ai eu l'inspiration de comment représenter la résurrection. Et je trouve ça très beau. Ça jaillit de la terre. Hein. Et c'est vrai que ça jaillit de la terre. La résurrection jaillit de la terre. Alors, il faut à la fois la terre et le jaillissement d'éternité. Puisque c'est du sépulcre que jaillit la lumière. Le sépulcre, c'est l'éternité. Et la victoire de l'amour à partir de la terre et qui éclaire un autre monde. Ce n'est plus de ce monde. Et c'est pour ça que c'est très beau. Ce n'est plus de ce monde. La figura, elle est de ce monde. C'est Saint Paul qui nous dit ça. Hein, que la figura, elle est de ce monde. Et il faut que la figura passe. Et qu'il y ait une autre chose dont nous ne pouvons plus nous représenter. Nous ne pouvons pas voir la gloire du Christ. Quand on représente le Christ glorifié, ce n'est pas la gloire du Christ. La gloire du Christ, c'est la vie. C'est l'amour victorieux. Théologiquement, hein, c'est ça le point de vue intéressant. C'est pour ça qu'au point de vue proprement art chrétien, c'est ça qui montre le mieux. Vous voyez, c'est le contraste ténèbre. Le ténèbres de la terre et la lumière. Une lumière, c'est très différent du mystère d'incarnation. Dans le mystère d'incarnation, il y a une figure, le tout petit enfant. Les pères de l'Église ayant mis toujours en parallèle le point de vue de la naissance de Jésus à Bethléem, Jésus dans le sein maternel, dans la terre vivante immaculée, et Jésus remise à la terre des pécheurs, le cadavre du Christ, remise à la terre des pécheurs, quand il est enseveli, et de là jaillisse le mystère de la résurrection. Oui, alors, si on essaie de réfléchir un peu au point de vue pictural, hein, parce que c'est intéressant de réfléchir à partir de quelque chose qu'on a vu, qu'on a apprécié ou pas apprécié, ça c'est autre chose, hein, mais qu'on a vu. Alors, de comprendre la naissance de Jésus, la nativité, et puis la naissance pour la gloire. Ce dépassement de la lumière. On peut faire autre chose, c'est bien évident, on peut faire autre chose. Un mystère ne peut jamais se représenter que d'une seule façon, ne peut jamais se représenter totalement. Donc il se représente de multiples manières. Ce n'est pas la seule manière de représenter la résurrection, mais c'est une manière. Et je dis très pictural parce que c'est lumière et ténèbres qui doivent être entendues. Et c'est la lumière qui doit tout éclairer. Si on comprend le chemin de croix, le nouveau chemin de croix, c'est la résurrection qui termine tout, ce qui est très très juste. Parce que c'est la résurrection qui éclaire tout le reste. Et donc, si on a une inspiration chrétienne, alors on doit montrer comment c'est le point d'orgue terminal qui achève tout. Avant, il y a une figure. Et là, il n'y en a plus. Parce qu'on est de dépassement. Ça, c'est pour saisir que représente le point de vue de l'art pictural. Il représente cette espèce de... On est saisi, on est pris par le point de vue de la lumière. Qu'on ne peut jamais représenter. On ne peut pas représenter la lumière. La lumière, ça ne se représente pas. On doit la faire jouer. La lumière, ça jaillit. J'ai vu une fois un mime extraordinaire. C'était vraiment un grand artiste, à sa manière. Il voulait montrer un mime comme quoi il voulait capter la lumière. C'était à la fois très drôle, mais en même temps, c'était très, très philosophique. Ce bonhomme, il avait réfléchi sur la lumière. Comment capter la lumière? Alors, il avait pris tout simplement, comme on prend un papillon, là, il met la lumière dans le sac, n'est-ce pas? Et là, c'était extraordinaire de voir que la lumière jaillissait tout le temps. Parce que la lumière, c'est pas une figurante. La lumière, c'est pas une couleur. La lumière, c'est au-dessus de tout ça. Alors, il faut à la fois toujours le contraste, parce qu'on ne peut pas représenter la lumière sans représenter, sans la couleur, sans la détermination, sans la figurante. Mais en même temps, il faut toujours la dépasser. Donc, il faut la nier. Pour le dépassement. Et pourtant, elle est présente parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous n'avons pas la possibilité d'exprimer quelque chose d'indivisible pour lui-même. La lumière, c'est inévitable. Et c'est vrai, c'est inévitable. Si vous avez un tout petit peu le sens pictural, et dans les différents endroits où vous allez, regardez la lumière. Et vous verrez, la lumière de Grèce, la lumière de Jérusalem, la lumière à Paris, à certains moments, la lumière en Bretagne. C'est toujours différent. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des nuances particulières, des modalités. Et c'est fait de quoi? Celui qui saisit, saisit. Alors, c'est ça le propre, vous voyez, de l'art pictural. C'est d'essayer de mettre en pleine lumière la lumière. Hein. La lumière de la lumière. Vous voyez, c'est ça va très loin. Hein. Parce que c'est ça, mettre en pleine manifestation, sans représentation figurative, avec une représentation figurative, il y en a toujours. Et c'est pas bon de la nier complètement, parce que c'est pas humain. Il y aura toujours une figura, mais minimum, pour faire jaillir la lumière pour elle-même. C'est le jaillissement de la lumière. Et c'est le jaillissement de la lumière qui va donner le rythme profond à tout l'art pictural, qui fait une œuvre de couleurs, c'est bien évident, de figures, d'expressions. C'est pas ça. Ça, c'est les éléments matériels. Et qu'est-ce qui va dominer? C'est le point de vue de ce qui, justement, dépasse tout cela. Et ce sera la lumière, avec l'opposition des ténèbres. Bon. Alors, on pourrait regarder, ce serait très intéressant, parce que chaque art devrait être mis comme ça, en pleine, en quelque chose d'unique. Qu'est-ce que va être ensuite, hein? Prenons l'inspiration avec lui. Vous avez l'art musical. L'art musical est quelque chose de tout à fait différent. Il y a des poètes, hein, il y a des poètes du côté de la peinture qui n'ont aucun sens de l'art musical. Ça existe. Mais là, on voit très bien que c'est archaïque. Mais ordinairement, ne demandez pas conseil à un grand peintre au point de vue pictural, au point de vue musical. Non, il vaut mieux pas. C'est curieux, c'est très curieux. Il faut faire cette expérience, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Parce que, comme vous voulez, ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas être universel. Je ne crois pas qu'on pourrait trouver un artiste qui ait tous les arts. C'est impossible. C'est une synthèse qui ne se fera qu'avec les corps glorieux. Parce que les corps glorieux sont la synthèse de tout le monde. Vous verrez comme danse en ciel. Je vous affirme, c'est une danse céleste. Hein, et elle sent, et même pour une carmélite. Elle dansera de la danse céleste du éternel. Ce sera vraiment quelque chose. Notre corps sera lumineux. Ce sera un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de merveilleux, le corps du Christ, cette lumière, le point de vue musical. Même ceux qui n'avaient pas une très belle voix ici, ils auront une belle voix. Si, de fait, ils aiment beaucoup le Seigneur, s'ils aiment beaucoup, c'est pour ça qu'ici, il vaut mieux aimer plus que chanter bien. Alors, parce que ça prépare pour plus tard le grand concert. Mais d'un point de vue musical, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que de fait, notre corps glorieux, ça c'est en dernier lieu qu'il faut voir ça. Je le dis tout de suite parce que c'est quand même intéressant à voir. Notre corps glorieux fera la synthèse de tous les arts. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en ce sens-là qu'il y a un art chrétien. L'art chrétien n'existe que grâce à la résurrection des corps. S'il n'y avait pas la résurrection des corps, il n'y aurait pas d'art chrétien. Il y aurait l'art religieux, comme il existe en Égypte, comme il existe en Grèce. Il y a l'art religieux. Mais l'art chrétien est autre chose. L'art chrétien, c'est l'art religieux par excellence. Alors à ce moment-là, plus de 20 minutes. Et alors, vous comprenez que grâce à la résurrection, et c'est sans doute pour ça, vous voyez, c'est une des raisons pourquoi la très sainte Vierge a son corps glorifié dans le ciel, c'est pour que l'art chrétien soit plus parfait. Parce que s'il y avait le corps du Christ, vous voyez, il serait masculin. Tandis qu'il y a le corps de la Vierge aussi. Et alors, il y a les deux notes. Et c'est très beau, ça. C'est une des raisons, je suis persuadé, des raisons de convenance. C'est qu'il y a de fait la nécessité pour nous d'être polarisés par le point de vue de l'art plénier du corps glorieux du Christ, du corps glorieux de Marie. Donc, l'art musical. Alors là, vous avez évidemment un point de vue matériel. Ici, vous avez la couleur et le visuel. Ici, vous avez le son. Le son est l'analogue à la couleur. Mais la lumière, quelle est la lumière de la musique? Le rythme. La lumière de la musique. Il y a des musiques qui sont comme des peintures, qui sont pleines de lumière. Et il y a des sons, il y a une harmonie des couleurs, il y a une harmonie des sons. Mais c'est encore matériel. C'est encore matériel, ça. C'est pas aller jusqu'au bout. Alors vous avez un rythme qui est tout à fait différent, et qui est propre à la musique, ça. Le rythme est beaucoup plus développé. Il y a un certain rythme dans l'art pictural, mais c'est beaucoup plus une harmonie. L'harmonie des couleurs, l'harmonie des volumes, en vue de la lumière, pour la lumière. Et au point de vue musical, l'harmonie des sons est en vue du rythme. Profond, pour qu'on voit ce que représente cela. Vous avez ensuite, j'énumère, j'arrête un tout petit peu à l'inspiration de la vision, de l'art pictural, parce que c'est quand même quelque chose qui est tellement très important pour nous. Et l'art de la musique est très important pour nous au point de vue liturgique, vous voyez bien. C'est sûr, on a besoin du point de vue musical. Vous avez ensuite, je ne dis pas d'ordre de valeur, je dis ça tout de suite. Le poète. Alors, c'est l'art de la langue, puisque c'est le jeu de la langue du son. Alors, il faut chercher toujours le point de vue matière dont on se sert, c'est la langue des mots. Le poète, quelle est sa matière? Sa matière, c'est la langue, c'est les mots. Et alors, quelle est la fine pointe, hein? L'analogue de la lumière, l'analogue du rythme. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que représente pour le poète le point de vue? Parce qu'il y a des poètes qui feront des vers parfaits, comme d'un point de vue logique, point de vue rythme. Mais ce sera l'hippopotame qui marche bien, qui marche d'une façon rythmée, tu vois, mais à la manière d'hippopotame, c'est pas très ailé, tu vois, c'est quelque chose de spécial. Alors, pour l'art poétique, pour le poète, c'est ça qu'il faut chercher, parce que philosophiquement, c'est ça qui est intéressant. L'artiste ne cherchera pas. Le philosophe doit aider à comprendre l'artiste et doit quelquefois aider l'artiste à être plus lucide. C'est toujours intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est pas du tout une critique d'art que fait le philosophe. Le philosophe se met à l'école des artistes. Il les écoute, il essaie de comprendre, il essaie de voir. Et alors, par les œuvres, il saisit quelque chose et il essaie. Un philosophe qui recherche ce point de vue-là doit avoir des amis peintres, des amis, qui soient des musiciens, des amis, qui soient des poètes, pour essayer. Parce que si je les interroge comme ça, ils ne comprendront pas. On va demander à un peintre d'être philosophe. Sauf quand il a fréquenté longtemps un philosophe, alors il devient philosophe. Mais il faut essayer de faire comprendre ce que représente l'aspect, vous voyez, l'aspect matière propre. Le son, c'est la matière propre. La couleur, c'est la matière propre. Mais c'est la lumière, ça, c'est pas la matière. Alors, au point de vue, cherchez vous-même, hein, c'est intéressant à faire. Alors, mettez la danse aussi. Je compléterai ça la fois prochaine.